Vous écoutez la web radio du HOF en direct du Nouveau Tel Avignon Centre.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HOF.
Bonjour et bienvenue à Osmose Web Radio. Nous sommes toujours dans les salons du Novotel, Novotel Avignon Centre. Et j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Claire Perraudeau, qui est seule mais qui n'est pas seule en réalité. Bonjour Claire.
Bonjour.
Et vous venez pour présenter un spectacle qui s'appelle Sauvage ou les enfants du fleuve, que vous jouez à l'entrepôt tous les jours jusqu'au 30 juillet à 10h35 avec des relâches le lundi.
C'est ça.
Bien ça. Et vous êtes la compagnie L'Hiver Nu.
Oui.
C'est joli comme tout. Et vous nous venez de Lozère.
Exactement, oui.
Voilà, alors bon, c'est relativement proche.
Oui.
Oui. Et donc, c'est la première fois que vous venez à Avignon ?
Oui, c'est la première fois qu'on se lance dans l'aventure.
Ah ben oui, quelle aventure, hein ?
Oui.
Alors, ce Sauvage ou les enfants du fleuve, c'est un conte, vous le réalisez comme un conte à destination oui. des enfants, mais de tout public. J'aime bien, alors moi j'ai une petite passion pour les spectacles dits jeunes publics, j'ai horreur de cette appellation, parce que je trouve que tous les publics doivent venir voir les créations qui sont faites pour les plus petits, puisque les grands s'en font leur propre lecture, et c'est souvent très intéressant après, on discute avec les enfants, parce qu'on a des degrés de lecture différents. C'est une création ?
Oui.
Ah ben c'est encore plus intéressant, donc Claire, vous allez nous parler un petit peu de ce Sauvage ou les enfants du fleuve.
Alors, peut-être vous raconter juste le début de l'histoire.
Oui, oui, pas tout, parce qu'il faut que les auditeurs viennent vous voir. Mais
il faut garder un peu de surprise.
Tout à fait, pour leur donner envie.
Au tout début du spectacle, en fait, ça se passe dans une ville au bord d'un fleuve. Et dans cette ville, il y a le vent qui se lève. Et toute la nuit, le vent souffle et se transforme en tempête. Donc dans la ville, tout s'envole et les adultes se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer et la particularité, c'est qu'ils ne vont plus jamais s'arrêter de pleurer à partir de cette tempête. Et les enfants, eux, ne sont pas du tout touchés par cette tristesse. Eux continuent à vivre normalement, sauf qu'au bout d'un moment, ils en ont vraiment très très marre de voir leurs parents et tous les adultes de la ville pleurer. Alors ils décident d'agir, ils décident de faire quelque chose et comme ils font le lien entre le vent, la tempête qui est passée et les adultes qui pleurent, ils décident de partir à la poursuite du vent pour que le vent leur donne un remède. Ils partent marcher le long du fleuve et il y a une péripétie que je ne vais pas vous raconter.
Ah ben non, bien sûr que non.
Mais qui va faire qu'ils vont se retrouver emportés par le fleuve et ils vont se retrouver à errer au milieu du fleuve sur une sorte de radeau. On appelle ça un embâcle, c'est un espèce d'amas de bois et d'autres choses que les fleuves en fait et les rivières charrient et qu'on retrouve en général contre les troncs ou contre les piliers de pont. Et là, ils vont faire tout un tas de rencontres assez étranges parce qu'ils vont rencontrer l'ensemble des habitants du fleuve, dont particulièrement une jeune fille qui habite ce fleuve qui s'appelle Sauvage, qui a donné son titre au spectacle, et une serpente qui est particulièrement bavarde, qui est le personnage qui parle le plus dans notre spectacle. Et Sauvage et Serpente vont décider d'accompagner les enfants dans leurs aventures.
Alors c'est tout ce récit que vous faites avec des liens et vous avez misé le spectacle sur aussi la nature,
oui.
Sur le lien qu'on noue tous avec la nature, à quel point il est important. C'était ça votre postulat aussi ?
Notre postulat,
pas le seul, hein, si j'imagine bien.
C'était un des points de départ, c'était qu'on s'est dit, tiens, on trouvait qu'il y avait un parallèle qui pouvait se faire entre la réduction de la biodiversité et la réduction des formes multiples de pensée. Et du coup, on s'est dit, ah tiens, et si on se mettait à ouvrir des champs de pensée différents ? Et on a eu envie de faire ça avec des enfants et à destination des enfants, entre autres parce que nous, on trouve que les enfants ont une capacité d'imagination qui est ultra riche,
oui.
Qui nous permet d'inventer des solutions. Aussi parce qu'on parle beaucoup de catastrophes climatiques, de catastrophes en tout genre, mais qu'on parle rarement de tous les liens qu'on peut tisser quand même dans ces catastrophes, toute la joie de vivre qu'on peut garder, et on avait envie de parler de ça. Du coup, on s'est immergé avec des enfants pendant 2 ans. Dans plein de milieux différents, des écoles, des centres aérés, des villages, des hôpitaux, des collèges. Et on avait envie de voir quel genre d'humeur les enfants pouvaient avoir. Et on a parlé beaucoup de pensées et beaucoup d'aventures.
Et c'est né aussi à partir de leurs idées, parce que vous leur présentiez le thème et eux, ils continuaient à vous donner des idées, ça fouillait.
Ils nous donnaient surtout des manières de penser et des manières de voir le monde.
Auxquelles vous n'aviez pas songé.
par exemple.
Ou que vous pouviez intégrer dans le spectacle facilement.
En tout cas, qu'on a eu, nous, parce qu'on était à leur contact tout le temps. On a d'abord construit la marionnette de la Serpente.
Oui, parce qu'on va en parler quand même de ces marionnettes. Alors, je vous coupe la parole un instant, parce que vous avez aussi des tracts qui sont absolument superbes. Je tiens à le dire, ils sont tous superbes. Hein. Et je ne sais pas si je le montre à la caméra, mais j'attends que la technique me dise sur quelle caméra je vais. Est-ce que là, on voit bien ce magnifique tract de la Serpente? Est-ce qu'on le voit? On le voit parce que je trouve particulièrement beau, mais tous les tracts sont beaux, ils ont été pensés remarquablement. Donc, vous avez travaillé sur les marionnettes.
Oui, en fait, comme on voulait que notre histoire soit portée uniquement par des enfants, et qu'on n'avait pas envie, nous, en tant qu'adultes comédiens, de jouer des enfants, on s'est dit qu'on allait réaliser tous les enfants en marionnettes et tous les personnages du spectacle en marionnettes. Après, il faut savoir que dans l'histoire de la compagnie, on travaille toujours très fort le visuel. On a toujours eu des scénographies qui bougent, on a toujours fait du théâtre d'ombre, on a fait de l'objet, qu'on mélange toujours au jeu d'acteur. Et c'est la première fois, par contre, qu'on fait un spectacle où c'est vraiment des marionnettes figuratives qu'on utilise.
Parce qu'elles sont grandes, ces marionnettes.
Elles ont des proportions et des tailles différentes.
Oui.
Les plus petites font à peu près cette taille-là. Et les plus grandes sont quasiment aux mêmes proportions que les humains, donc taille d'enfant.
D'accord, et vous êtes derrière sur celles qui sont à taille humaine?
Oui, on est derrière.
Pas en noir, vous n'êtes pas...
On est habillé de noir, parce que nos marionnettes sont assez claires, donc ça permet qu'elles ressortent mieux, mais par contre, nous, on nous voit. On avait envie que se montre en même temps que l'histoire le travail de ceux qui font l'histoire.
Oui, c'est bien, parce que c'est un joli parti pris aussi, le travail du marionnettiste, c'est pas simple. Alors, j'ai quand même relevé que votre marionnette à vous, c'est... vous êtes sur le Bunraku.
Oui,
c'est ça.
Les enfants, c'est la technique du Bunraku, c'est des marionnettes qui sont réalistes en fait et qui sont toutes articulées. Donc normalement, traditionnellement, le Bunraku, il faut être trois pour manipuler. Il y a une personne qui manipule la tête, un bras, une autre personne qui manipule le bassin, l'autre bras, et une personne qui manipule les jambes. Donc là, par contre, elles sont manipulées par à chaque fois une seule ou un seul marionnettiste. Donc... je vais pas dévoiler toutes les techniques.
Ah mais non. Que ce soit possible. Je suis très intéressée par le travail des marionnettes, parce que je trouve que ce sont aussi... Derrière, on sait qu'il y a les personnes qui les animent, mais la marionnette devient un véritable comédien aussi. Il y a un vrai jeu, il y a un travail considérable sur la marionnette qu'on... Peut-être que nous autres adultes, on voit ça, peut-être que ça nous échappe, ça échappe moins aux enfants. Hein. Moi, je discute avec les enfants qui sont très très sensibles aux marionnettes, moi aussi. Je pense que je suis une grande enfant encore, tant mieux. Et j'aime bien qu'on mette l'accent sur ce travail qui est quand même un travail lourd.
Oui, c'est un gros travail de précision et puis en même temps que la technique ne vienne pas cacher aussi le jeu. Ne viennent pas cacher l'histoire, donc c'est toujours des allers-retours entre être très précis techniquement, être très précis aussi avec la lumière, parce que les marionnettes, dès qu'elles sortent de la lumière, on ne les voit plus. On essaye d'éclairer plus les marionnettes que les comédiens, et puis à certains moments, on éclaire tout le monde parce qu'on a envie que tout soit vu, et de faire des allers-retours entre se laisser déborder par le jeu, laisser la marionnette nous guider, mais en même temps être très attentif à la technique.
Et vous êtes toute une équipe qui... Vous connaissez tous, parce que la scénographie a l'air magnifique aussi. Je n'ai pas vu le spectacle, moi je vais nous voir les spectacles après. La scénographie semble absolument magnifique aussi. Vous travaillez ensemble depuis longtemps ?
Oui, alors pas forcément avec tous les membres de la compagnie, mais il y a un noyau dur qui est là depuis 2015 au moins.
Et vous êtes un peu nomade en Lozère, vous allez aussi dans les villages?
Oui, nous la compagnie elle est basée dans un tout petit hameau, il y a 7 habitants. Ah, le village en fait 300 dont la compagnie dépend. Et on travaille beaucoup avec la scène conventionnée de Lozère, on est compagnie complice de la scène conventionnée qui s'appelle les scènes croisées. Et du coup, comme c'est une scène qui n'a pas de lieu, le principe étant qu'elle a pour tâche de programmer dans toute la Lozère, dans tout le département, et ben on voyage avec.
Oui, c'est bien parce que la Lozère, c'est quand même aussi un département un petit peu, j'allais dire dépeuplé, peut-être pas, mais en tous les cas, c'est pas simple pour les habitants de Lozère. C'est pas toujours simple. Les villes, on pense à Mende, on pense... Mais c'est bien aussi d'aller à la rencontre
du coup, le fait que la scène conventionnée n'ait pas de lieu, et en plus, c'est pour mission de toujours programmer avec un partenaire local dans les villages, donc ça peut être... une petite association, ça peut être un théâtre plus conséquent, ça peut être un foyer rural. Ça fait que, même s'il n'y a que 73 000 habitants, en fait, il y a des propositions culturelles régulières
J'allais le dire,
dans tous les coins de la Lozère. Pas dans tous les villages, évidemment. Mais au moins dans tous les bassins.
Mais au moins c'est riche aussi.
C'est très riche.
C'est très riche. Puis bon, c'est un très beau département qui a connu aussi son lot de misère pendant une violente tempête il y a quelques années, en hiver. Hein. C'était très difficile. On va peut-être parler de l'équipe qui vous accompagne, Claire.
Oui, peut-être un tout petit mot sur la scénographie, comme vous en parliez avant l'équipe.
Mais bien sûr, le micro est à vous. Donc, parlons-en.
Je vous remercie. On avait envie... Donc, la scénographie, elle représente le radeau de bois, l'embâcle sur lequel les enfants se retrouvent à dériver. Et en fait, on avait vraiment envie de s'attacher au milieu du fleuve et à rendre par la scénographie, donc aussi les lumières, mais aussi le son, toute l'atmosphère qu'on peut avoir... Dans les fleuves, il faut savoir que les enfants se perdent, ils arrivent vers le delta, on s'est un peu inspiré du Rhône. Et on avait envie de rendre cet endroit-là, cette chose qui bouge tout le temps parce qu'on est sur l'eau et en même temps on ne sait plus où on est, donc cette perte. Et on a vraiment été aussi très précis du coup sur toute l'esthétique générale du spectacle.
Et les enfants perçoivent bien ? Ils vous racontent un petit peu après le spectacle, vous pouvez leur parler
oui.
Un petit peu.
Alors à Avignon, non.
Et c'est difficile parce qu'il y a d'autres compagnies derrière vous.
Il faut être attentif à laisser la place aux autres compagnies pour qu'elles aussi elles puissent monter dans de bonnes conditions. Donc on les rencontre beaucoup moins, mais on a fait énormément de représentations scolaires avant de venir. Et on a des temps d'échange avec les enfants qui perçoivent selon leurs âges aussi choses assez différentes.
L'avantage de la lecture multiple selon les âges, c'est vraiment l'avantage du spectacle. Dit jeune public, c'est fou une appellation, paraît-il. Moi, j'invite vraiment les gens qui ont au-delà de 7 ans à se rendre sur ces créations. Et je trouve qu'il y a vraiment un bel effort. Souvent, il y a très, très belles créations. C'est souvent très beau, c'est souvent très lumineux, très clair. Le message, il est aussi clair. Et puis, en plus, ça leur permet de réfléchir et le produit de leur réflexion souvent nous fait avancer et nous met aussi face à nos responsabilités. C'est pas mal, hein. On va peut-être donc parler de votre équipe aussi, celle qui vous entoure. Alors, je vous écoute, Claire. Parce que moi, j'ai ma petite fiche derrière, mais vous allez en parler mieux que moi.
On a pensé et écrit le spectacle avec Baptiste Étard, qui co-dirige la compagnie L'Hivernu avec moi. Donc, on a tous les deux été à la mise en œuvre générale. On a écrit le texte et pour écrire le texte, on a été accompagné par Mariette Navarro, qui est une autrice de théâtre et de romans, qui nous a fait des retours. On lui envoyait notre texte et puis elle nous racontait ce qu'elle ne comprenait pas, ce qui lui semblait plus faible, les endroits comme ça un peu. Donc on a fait beaucoup d'allers-retours, c'était super, ça nous a permis à partir de l'idée qu'on avait d'aller beaucoup plus loin.
C'était né pendant le confinement aussi ou c'était né,
oui, ça s'est passé, on avait commencé avant et le temps du confinement était le temps où on était en recherche. On avait déjà des bouts de texte, mais on n'avait pas tout. On avait déjà un peu de marionnettes, mais pas tout. Donc, tout le temps du confinement a été le temps de création en boîte noire, comme on dit. Dans l'équipe, ensuite, à la construction, donc Baptiste, il est à la fois auteur, metteur en scène et scénographe. C'est lui qui a pensé l'ensemble de la scénographie, mais qui l'a construite avec d'autres constructeurs, comme Anne-Laure Baudin et puis aussi Laurélie Riffaut, qui s'est occupée plus des accessoires. Les marionnettes, elles sont construites par un facteur de marionnettes qui s'appelle Arnaud Louskipan, qu'on connaît de longue date, qui nous avait jamais fait de marionnettes parce que c'est lui qui fait ce type-là de marionnettes et nos autres spectacles étaient sur d'autres genres d'objets ou de marionnettes. Lui, il est plutôt du côté du Mans.
D'accord, oui.
Et puis ensuite, il y a comme comédien, manipulateur, manipulatrice sur scène Thaïs Troulio, Pierre Berner et moi-même. Jean Poinsignon, qui est un créateur musicien qui est dans les Cévennes, nous a fait la musique. Et je suis sûre que je suis en train d'oublier quelqu'un. Alors, il y a quand même à la lumière...
Joseph Courant,
qui nous a accompagnés sur tout le début, mais qui ne pouvait pas... En général, nos créateurs lumière ensuite nous accompagnent sur la régie générale. Là, lui, il avait beaucoup d'autres compagnies avec qui il travaillait. Et du coup, notre régisseur général s'appelle Ngom 2 et il nous accompagne depuis toutes les premières dates.
D'accord. Voilà. Alors, on rappelle que vous jouez du 7 au 30 juillet à 10h35 à l'entrepôt, c'est tout près d'ici. Ouais. Vous êtes en relâche le lundi. On invite les petits et grands, comme il est indiqué au verso de votre tract, à rêver, réfléchir et rêver. Est-ce que vous allez rester dans la création jeune public ou vous porterez d'autres spectacles plus tard ?
On porte aussi des spectacles tout public ou franchement adultes. Et du coup, la prochaine création qui continuera à mettre en œuvre notre lien à la nature, il y aura plusieurs petites formes, donc il y aura des formes adultes et des formes jeunes publics.
Et Claire, c'est votre première Avignon, vous nous disiez. Vous êtes contente ?
Oui.
C'est une expérience, Avignon. Hein.
C'est une sacrée traversée, c'est une aventure aussi. Oui.
Oui. Et bon, oui. Le public est là.
Le public est là, il pourrait être plus là.
Eh bien, on vous invite, public, à vous rendre, parce que 10h35, c'est vraiment un excellent horaire pour petits et grands à l'entrepôt. C'est vous quittez un peu, vous sortez des remparts, ça ne vous fera pas de mal non plus. Puis en plus, il y a une très belle programmation à l'entrepôt.
Oui.
Donc, 10h35, vous allez vous emmener vos enfants, vous emmener vos parents, vos grands-parents. Vous courez voir Sauvage, ou les enfants du fleuve, je le rappelle, à l'entrepôt jusqu'au 30 juillet à 10h35, pas le lundi, c'est le jour de relâche. À mes côtés, c'était Claire Perraudeau, que j'étais ravie de recevoir. On va peut-être vous laisser le mot de la fin, Claire, si vous voulez nous dire un petit mot.
Eh bien, venez nombreux.
Voilà, venez nombreux. Merci beaucoup, Claire, d'avoir partagé ce petit moment avec nous. Et à très bientôt.
Merci.